Europe 1.
Depuis 2012, les attentats en France ont causé la mort de 272 personnes et provoqué des milliers de blessés. Ces terribles attaques ont laissé derrière elles des familles endeuillées, mais aussi des rescapés aux lourdes blessures physiques et psychologiques. Comment se reconstruire lorsque l'on a vu ses proches mourir? Comment trouver la force d'affronter à nouveau le monde extérieur? Comment vivre avec ces images de guerre gravées à jamais dans la mémoire du corps? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Samira et de Michael. Le 14 juillet 2016, ils étaient venus en famille admirer le feu d'artifice sur la promenade des Anglais à Nice, mais leur soirée a tourné au cauchemar. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus. Samira, bonjour.
Bonjour.
Michael, bonjour.
Bonjour.
D'abord, merci de m'accueillir pendant ces quelques jours où nous allons parler de votre vie et de ce qui vous est arrivé, puisque vous étiez présent le 14 juillet 2016 lorsque un camion a foncé sur la foule lors du feu d'artifice où vous étiez avec des enfants, hein, dont votre fils Yanis de 4 ans et demi qui malheureusement a laissé la vie sur cette promenade des Anglais. Vous étiez inquiète un peu d'aller dans ce type d'événement parce qu'on baigne dans cette atmosphère. Hein. Il y a des menaces qui sont clairement qui ont été prononcées par Daesh.
Non, bah après on y pensait un peu. On en parlait avec les copains. On se doutait qu'il allait arriver un truc, sur la Côte d'Azur ou dans le sud. Quoi.
Ouais.
Et voilà, de là se dire qu'on allait être là le jour J, il y a un monde.
Moi, je vivais innocemment, quoi. J'avais une vie avec des craintes, mais pas la crainte d'un attentat. Pas moi, quoi. Pas nous. C'était pas possible, quoi. Il y a le pourquoi nous, il y a de la haine. Il y a beaucoup de haine. Moi qui suis pas haineuse à la base, hein, je suis plutôt pacifiste. Ben, j'ai une rancœur et une haine envers cette société, quoi.
Perdre un gamin comme ça de 4 ans qui est en train de s'amuser, il se fait écraser par un camion, déjà c'est inadmissible. Donc, ouais. Et on est en vigie pirate, niveau maximal, on ne s'imagine pas une seule seconde
qu'il n'y a pas de sécurité. Quoi.
Donc la sécurité elle est un peu légère. Quoi.
Qu'elle est minimisée.
Vous avez l'impression de ne pas avoir été protégé?
Pas du tout. Pas du tout protégé. Et puis c'est comme la gangrène, ça se propage. C'est pareil, pour moi, les Daesh, les terroristes, c'est pas d'hier. C'est sûr que ce n'est pas les personnes qui ont laissé cette gangrène se propager qui sont touchées. Bien au contraire, eux, ils sont surprotégés. C'est nous qui en pâtissons. On empathie et on subit, on subira jusqu'à la fin de nos jours. Hein.
Le 14 juillet 2016, alors que Samira et Michael apprécient peu ce genre d'événement, ils acceptent d'emmener leur petit Yanis voir le feu d'artifice. Accompagnés de Mino, leur voisine, et de ses deux enfants, Amaury et Andrew, tous se rendent sur le front de mer à la tombée de la nuit.
Part de la maison, on galère pour se garer, comme d'habitude. Ouais. Après, on marche un peu, on va manger une petite glace.
Dans l'état.
Voilà, après, on traverse, on se balade un peu, on se pose sur les galets, on regarde le feu d'artifice. Voilà. Mm-hmm. Dès que le feu d'artifice s'est arrêté, c'était vraiment bizarre. Il s'est mis à souffler du vent, mais vraiment fort. Et je sais pas, on aurait dit qu'il allait se passer quelque chose. Quoi. Mmh. Le temps, en fait, il avait tourné d'un coup.
Alors là, les enfants étaient en train de jouer à quelques mètres de vous, en fait.
Ils étaient à 40 mètres, 40-50 mètres.
Mmh. Ils étaient avec votre voisine?
Voilà, ils étaient avec la voisine, avec sa tante et avec les autres petits. Mmh. En fait, ils étaient tous ensemble, on les a laissés partir, ils jouaient ensemble, parce que vu qu'ils étaient accompagnés avec les adultes. Et nous, on est restés un peu en retrait, parce qu'il y avait beaucoup de foule, en fait, on n'arrivait plus à circuler. Mmh. Donc, nous, on était un peu plus loin derrière, en fait. On se faufilait un peu dans la foule. Et c'est là que je l'ai vu arriver. En fait, je vois un truc de loin. Je sais pas si c'était un camion ou un bus. Je le vois arriver à fond, quoi. Il roulait à fond, je le voyais. Et en fait, le temps de... Voilà, déjà, le temps de réfléchir, ça s'est passé en 3-4 secondes. C'était fini. Il était sur nous, le camion, en fait.
3-4 secondes.
J'ai juste eu le temps de hurler. J'ai dit, attention, le camion. Et d'un coup, j'ai entendu tous les gens qui se mettaient à hurler, tout le monde qui s'est écarté devant nous. Et en fait, quand les gens ils s'écartent, bah, après vous êtes tout seul au milieu, et puis vous voyez le camion, il fonce sur vous, quoi. Et en plus, il faisait des zigzags, il partait à droite, il partait à gauche. En fait, il essayait de taper un maximum de personnes. Et on entendait le bruit des gens, à chaque fois il tapait les gens, on entendait pas, pas, pas. À chaque fois qu'il y avait un impact, on entendait tout.
Un souffle.
Et moi, j'ai juste eu le temps de l'attraper par le bras, en fait, de la tirer. Et moi, dans l'élan, en fait, je suis tombé par terre avec elle, et le camion, il lui a touché le pied, carrément.
Vous arrivez à vous relever instantanément, je suppose, parce que la première chose à laquelle vous devez penser, c'est à Yanis.
Enfin, moi, le premier truc que je me suis dit, j'ai dit, ça y est, on va le retrouver en miettes, quoi. Tous les gens, ils étaient partis, ils avaient sauté sur la plage, ils étaient partis de l'autre côté. Tous les gens qui restaient, c'est des gens, ils s'étaient fait taper par le camion, des cadavres.
C'était à moitié déchiqueté.
Là, on s'est dit, dans quel état on va le retrouver, quoi.
Moi, j'ai couru, en fait. Je suis même passée devant Yanis et Minou. J'ai vu, en fait, la seule vision que j'avais, c'était les petits, en fait, Amoury et Andrew, les enfants de Minot, qui pleuraient, en fait. Et quand moi, je les ai vus, ça m'a... C'est comme si je reprenais un souffle, quoi. Je me suis dit, ils sont vivants, Yanis est vivant. Pourquoi eux et pourquoi pas lui ?
Vu
qu'ils étaient ensemble. Et c'est là qu'après, j'entends Mickaël qui me dit, Samira, il est là, il est mort. Il est mort. C'est là que je me retourne et que je le vois par terre, quoi, inerte. Visage au sol. Et je me suis dit, c'est pas possible, il doit être vivant, c'est pas possible. Je l'ai embrassé, je lui ai dit, je t'en supplie, mon bébé, réveille-toi, je t'en supplie. Puis là, j'ai dit à Mickaël, il faut qu'on y aille, faut qu'on l'emmène, c'est pas possible. Il fallait qu'on entende, en fait, de la voix d'un spécialiste, en fait, qu'il était décédé, quoi. Même si on le savait au fond de nous qu'il était décédé, je savais que c'était fini, je savais.
Moi, je lui parlais dans l'oreille, je lui dis, t'en fais pas, le docteur, il va venir, il va te soigner. Enfin, voilà, j'essaie de le rassurer, de lui parler. Mais quand je l'ai pris dans les bras, je savais, je suis pas docteur, mais je savais que voilà.
L'instinct.
Voilà.
Tout de suite, il fallait trouver des secours.
On s'est rué sur la route, en fait. On a arrêté des voitures, quoi. Entre les personnes qui étaient prises de panique, qui voulaient s'enfuir, quoi, qui voulaient pas s'arrêter. Heureusement, au final, on est tombé sur deux jeunes super sympas qui nous ont fait rentrer dans leur voiture, qui ont roulé comme des malades pour arriver jusqu'au premier secours, au plus vite, quoi.
Et c'est là qu'on a vu que les pompiers, en fait, ils étaient montés sur le trottoir. En fait, ils étaient en train de prendre en charge un monsieur qui était mal en point, quoi. Il était par terre. Et après, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, on fait le maximum, patati patata. Bon, moi, je savais que... Elle était en train de hurler comme pas possible. Enfin, c'était un cauchemar. Enfin,
il y avait plein de personnes autour qui agonisaient, quoi. Il y avait un monsieur qui convulsait à côté de nous. Juste derrière les pompiers, il y avait une personne qui était décédée. Il y avait un enfant décédé pas loin non plus. Et à un moment donné, on a eu des pompiers qui ont été sympas, qui nous ont dit de monter avec eux. Ils allaient à l'hôpital à Pasteur. Ça a été une bonne chose pour nous, parce que du coup, on n'a pas été amené à laisser notre fils sur la prom comme les autres victimes, quoi.
Ouais, ouais.
Qui, du coup, il n'est pas passé la nuit sur la prom, quoi, comme un animal, quoi. Parce que les autres victimes, ils sont restés jusqu'au lendemain, quoi.
Pour les besoins de l'enquête, à un moment, la police a décrété qu'il fallait...
Plus les toucher, ouais. Il fallait fermer la zone et plus toucher quoi que ce soit. Mickaël a fait la demande de voir Yanis avant qu'on s'en aille. Du coup, on a pu le voir, en fait. Ils ont essayé de le nettoyer un petit peu, de camoufler un petit peu ses blessures.
Ouais.
Tout en sachant que, de toute façon, même actuellement, je me souviens chaque endroit, chaque blessure qu'il avait. Du coup, on a pu aller le voir, donc on a pu lui dire au revoir. Après, du coup, il y a une infirmière qui nous a déposés vers les coups de 2h30 du matin, à peu près. On s'est retrouvés à la maison, en fait, rentrés chez nous.
Et il doit y avoir quelque chose, d'irréel, en fait, de mauvais film, comme vous dites.
J'ai l'impression que comme c'est un cauchemar, on va se réveiller.
Ouais.
On va dormir, et puis le lendemain, on va se réveiller. Mm-hmm. Yanis, il sera dans sa chambre, comme d'habitude, et puis il va se réveiller, comme d'habitude.
Le lendemain, tu voulais aller le récupérer.
Moi, j'y croyais pas, quoi. Quand on a des enfants, on a le rituel, quoi. Le matin, ils se lèvent. Lui, buvait encore le petit biberon chocolat au lait. Son petit bip-bip avec sa petite couette sur son canapé. Il regardait ses dessins animés. du coup, voilà, je voyais pas, en fait. C'était pas possible qu'il soit pas là, qu'il n'y ait pas ce rituel. C'est pas possible. Mmh.
Une semaine après l'attentat, Yanis est enterré au carré musulman du cimetière de Grenoble. Après cela, quitter Nice est devenu vital pour le couple, surtout pour Samira qui n'envisageait pas la vie sans son fils dans cette ville devenue maudite à ses yeux.
On était comme des zombies, un état de légumes, quoi. Anesthésiés totalement, quoi. Ah, le choc de la perte de Yanis, la violence dans laquelle ça a été commis, anesthésie.
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 Vous avez subi aussi le choc de l'attentat. Et ça, en fait, ça a été sans doute recouvert par le départ de Yanis. Mais c'est quelque chose qui vous angoissait.
Oui.
Vous aviez peur.
Mmh. C'est effrayant parce que du coup, quand on a vécu un tel choc, j'avais peur de tout, quoi. J'avais peur que quelqu'un revienne, rentre par la fenêtre.
Ouais.
Moi, j'étais vraiment dans les ténèbres, quoi.
Ouais.
J'étais muet, en fait, dans le silence, quoi. Mm-hmm. Je passais des après-midi à regarder le mur blanc, pas sortir de la maison. Moi, qui étais maniaque, qui faisait le ménage H24, je faisais plus rien.
Ouais.
J'avais plus goût à rien, quoi. Donc non, heureusement qu'il était là et que... qui m'a beaucoup épaulée. Hein.
C'était, voilà, c'était vous, c'était l'objectif, c'était de garder Samira en vie. Ça vous traversait la tête qu'elle était capable de faire du mal.
C'est vrai que j'étais un peu inquiet. Quoi.
Ouais.
Enfin, dès le début, on se dit il peut lui passer n'importe quoi par la tête. Enfin voilà, même pour chercher l'appartement, j'ai fait en sorte de trouver quelque chose au rez-de-chaussée parce que je me suis dit si on est en étage, voilà, on ne sait jamais, il lui passe quelque chose par la tête, elle se jette par le balcon. Mmh. Enfin ça fait partie des inquiétudes,
bien sûr.
Des inquiétudes qu'on a.
Mmh. Donc, est-ce que vous aviez envie d'en savoir plus sur cet attentat, sur l'auteur?
Pour moi, c'était essentiel, quoi. Il a brisé ma vie, quoi. Donc j'avais besoin de comprendre pourquoi et comment ça a pu se passer. J'ai vraiment un besoin viscéral de savoir qui était ce personnage, quoi.
Ouais.
Son entourage, son quotidien, quoi.
Mm-hmm.
Sa vie, quoi. Et j'avais besoin de connaître son parcours.
Pour l'arrêter dans sa course folle, les policiers tirent à plusieurs reprises sur le canon.
Comment vous avez jugé la manière dont a été traité cet attentat par les médias?
Ça a été traité comme ça devait l'être. Hein. Ils,
ouais.
ils ont vraiment relaté ce qui s'est passé. Après, il y a eu des images un peu choc, entre guillemets, mais c'est... Enfin, voilà, de toute façon, c'était choquant, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Après, il y a eu des polémiques par rapport à des photos qui sont parues dans des journaux, des gens qui étaient sous des draps, des choses comme ça. Mais, enfin, je vois pas où est la polémique, quoi. C'est ce qui s'est passé, quoi. Les gens, ils se sont fait écraser, ils étaient sous les draps, et... Moi, j'ai envie que les gens aussi sachent. Voilà, regardez, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui nous est arrivé.
Ouais.
Voilà ce qu'on a vu.
Ces scènes de chaos, Bruno ne les a pas vues. En déplacement professionnel ce jour-là, il n'a pas pu accompagner son épouse Mino et leurs deux enfants sur la promenade des Anglais. Comme Yanis, Mino est décédée dans l'attentat. C'est elle qui était avec les enfants au moment où le poids lourd a foncé dans la foule.
Il y a la cousine Mino qui était avec eux, qui m'appelle et qui me dit « Il y a eu un camion qui a perdu ses freins sur la promenade des Anglais. »
D'accord.
Elle me dit « Mino, elle est tombée par terre, elle a plein de sang et tout. » Et moi, de suite, j'appelle quand même le téléphone à Mino. Je dis « Je vais quand même l'appeler. » Et puis, dès que ça n'a plus répondu, je me suis dit « Ça y est, c'est quelque chose de grave. » Parce qu'elle n'éteint jamais son téléphone quand je suis en déplacement. Je suis allé de suite à l'hôpital. Et en fait, sur la route, je me suis déjà un peu préparé. Parce que comme j'ai plus eu d'appel de qui que ce soit, et j'ai appris son décès. Le médecin m'a dit « Mais vous allez bien ?» et tout. J'ai dit « Oui, je... » Parce que j'ai essayé de garder mon calme, en fait, parce que de suite, je voyais trop de problèmes dans ma tête.
Les choses se bousculaient. Ouais.
Voilà, et puis je ne savais même pas, je ne sais pas, je ne sais pas, que je ne trouvais pas le temps de pleurer ou de... Mais de suite,
Vous pensez aux enfants, non?
Voilà, ouais. J'ai pensé à tout, à leur avenir, ouais. Comment je vais faire pour surmonter en fait mon quotidien et le besoin des enfants. On a quand même deux. Hein.
Deux, de 4 à 6 ans.
Voilà, de bas âge. J'avais tout qui troublait dans ma tête. Je me rappellerai toujours, Andrew, il m'a vu, il m'a dit, tu sais, Yanis, il est mort parce que j'avais la main de maman et elle a voulu tirer Yanis parce qu'il s'est fait écraser. Alors, c'est là que j'ai compris, en fait, que en fait, c'est Minou a essayé de sauver donc,
Yanis.
Et puis voilà, et puis après, on en a discuté avec, avec Samira.
Et finalement, Andrew, il assiste au dernier moment de vie de sa maman, de Yanis. Ça a dû être très important pour vous de connaître la vérité, en fait, de savoir que Minou avait tenté... ça change. Enfin, je suppose que ça change beaucoup de choses pour que vous
d'un côté, ça nous a rassurés parce qu'on s'est dit que voilà, elle a quand même essayé de tout faire pour voilà, pour que tout le monde s'en sorte. Puis ça nous a fait de la peine aussi de se dire en même temps que voilà, qu'elle s'est un peu sacrifiée pour. Comment dire ça, que ouais, elle a quelque part en fait, elle a abandonné sa famille pour sauver notre fils. En fait, c'est comme si elle sauvait son enfant à elle, en fait. Elle n'a pas fait la différence. C'était comme si c'était une maman qui est
responsable,
voilà, qui essayait de sauver un enfant, tout simplement.
Vous êtes battu pour que Minou soit décoré de cette médaille du courage et du dévouement.
Quand Andrew nous a dit, en fait, nous a expliqué l'histoire, le cheminement, en fait, de la soirée, quoi. Et du coup, comme ça m'avait vraiment touchée, parce que lui, il l'avait pris comme un abandon, quoi. Il m'a dit, mais maman, elle est partie avec Yanis. Du coup, moi, je me devais, en fait, de demander, en fait, à ce que la mairie reconnaisse, en fait, l'acte de bravoure de Minou, quoi, pour la reconstruction des enfants aussi.
Ouais.
Ça leur laisse un souvenir.
Et puis, que ce soit marqué, quand même. J'ai une profonde admiration pour elle, parce que je sais pas si moi j'aurais été capable de faire ce qu'elle a fait.
Ça vous lit comme. Si vous étiez de la même famille aujourd'hui?
On n'est pas de la même famille, mais c'est tout comme. Ça nous a rapprochés un peu plus.
Ce soir-là, de nombreuses victimes étaient de confession musulmane. À l'hôpital de Nice, Samira a rencontré Hanan, qui venait de perdre sa mère Fatima dans l'attentat. Les deux femmes ont toutes deux été révoltées par l'amalgame fait entre les terroristes et les musulmans dans leur ensemble.
Personnellement, on a eu des répercussions de l'amalgame. C'est-à-dire que le soir même et les jours après, ma famille a été victime d'agressions, et moi-même par des personnes qui nous ont assimilés à ceux qui ont commis cet acte. Ouais, complètement. Ma mère était encore sous le drap qu'une voiture s'est arrêtée et qui a dit « c'est bien fait pour vous, bande de terroristes, cette fois-ci c'est votre tour ». Donc d'entendre ça au moment le plus grave de sa vie, ça a été vraiment un bouleversement pour mes frères et sœurs et mon père. Donc, que dire? Vraiment, il n'y a rien à faire. Donc, il y a vraiment des gens qui n'ont aucun respect et aucune humanité. Puis ensuite, lorsque je suis arrivée, la première fois où j'ai pu aller me recueillir sur les lieux où elle est décédée, donc, j'étais avec mes sœurs, uniquement mes sœurs, et les filles de ma famille, quoi. Et il y a un homme qui est passé derrière nous qui a dit « on ne veut plus de ça ici, on ne veut plus de vous ici ». Puis 10 minutes après, c'est là que ça a été pour ma part le plus grave. Il y a un homme qui nous interpelle, c'est bien, vous sortez en meute. Qu'on lui a juste dit, écoutez, laissez-nous tranquilles, on vient de perdre notre mère. Et lui, il dit, tant mieux, ça en fait une en moins. C'est la dernière chose qu'on a envie d'entendre, en fait. Enfin, voilà, on est des victimes, on n'est pas des coupables. Donc qu'on nous traite de coupables, c'est blessant et ça n'a rien à faire à ce moment-là, c'est injuste. C'est un des buts de Daesh aussi, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est la division. Il ne faut pas tomber dedans et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a rien à faire malheureusement. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'en parler. On va dire que c'est à cause et grâce à ces choses-là aussi que j'ai pu, entre guillemets, défendre ma religion et mon pays à la fois, quoi.
Est-ce que tout ça, en fait, les drames que vous avez connus toutes les deux, a renforcé votre foi?
Oui, pour ma part, oui. Je me suis vraiment retournée... vers ma foi, quoi, pour avancer.
C'était nécessaire.
C'était obligatoire.
Pour rester.
C'était vital.
Ouais.
C'était vital.
papa.
Au-delà de sa foi, un autre événement a contribué à aider Samira à se relever. Presque un an après l'attentat, le couple a donné naissance à un deuxième enfant, le petit Amin.
Cet enfant, comment est-ce que vous vivez son arrivée?
On a eu la même réaction.
Ouais.
On a pleuré tous les deux.
Ouais.
En fait, c'est un nouveau souffle. En fait, c'est comme on réapprend en fait à respirer quoi avec lui.
C'est une deuxième vie qui recommence.
C'est une deuxième vie.
C'est la vie de famille en fait qu'on a perdue. C'est le petit frère de Yanis quoi. C'est ce que Yanis aurait voulu. J'ai pas un enfant de substitution. Loin de là. Voilà, c'est la vie qui continue. Malgré tout.
Après une année passée à Grenoble près de la famille de Samira, le couple est finalement revenu vivre à Nice. Michael a difficilement repris son métier de chauffeur poids lourd, mais pour Samira, qui avant l'attentat était elle aussi chauffeur poids lourd, il est devenu impossible de passer ses journées dans un camion comme celui qui a tué son fils.
Est-ce que je vais bien? Non. Je vis mieux. Tout doucement, pas à pas. Je suis toujours dans la reconstruction, je suis toujours dans le stress et l'angoisse qui m'ont pas quitté. Cette angoisse, cette insécurité, elle est ancrée en nous après.
Vous, Michael, comment ça va aujourd'hui?
Malheureusement, on est obligé de... pas de s'habituer à vivre avec ça, mais non, si, quelque
résigne,
part...
Si, c'est une résignation.
Voilà.
Une résignation plus qu'acceptée, en fait. Ouais. Hein.
De toute façon, il y a deux solutions. C'est soit vous restez par terre, soit vous vous relevez. Donc voilà, pour moi, c'est hors de question de rester par terre. Donc,
Vous avez porté plainte, en fait. Qu'est-ce que vous attendez de la justice par rapport à cet attentat?
On attend de la justice qu'elle fasse son travail et que les personnes qui ont pris les mauvaises décisions ce jour-là, qu'ils en répondent. Ce qui nous met surtout en colère, c'est le temps que ça met, en fait, pour le temps de la procédure, le temps qu'il y a un procès. On sait très bien que tous ces gens-là qui étaient aux commandes ce soir-là, ils seront à la retraite, ou alors ils auront changé de métier, ou alors ils seront plus en poste. Et on sait très bien que ces gens, ce seront des gens qui seront jamais inquiétés. Et même si c'est pas volontaire de leur part, il y a des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant, amputés, ils peuvent même plus se nourrir tout seuls. Et ça, faut jamais qu'ils l'oublient. Quand ils sont tranquilles chez eux en train de regarder la télé ou quand ils sont en vacances avec leurs enfants, il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui partent en vacances, mais malheureusement, ils n'ont plus leurs enfants avec eux. Ou alors qu'ils sont dans un état lamentable.
Il y a dans ces attentats ensuite des dédommagements des victimes.
On nous a proposé en gros 60 000 euros pour notre enfant. Quoi.
C'est quelque chose que vous avez refusé?
Tout à fait. Je n'en voulais pas. Ouais. C'est de l'argent de la mort quoi, pour moi.
Ouais. Vous voulez en fait que les personnes qui sont responsables soient condamnées?
Soient condamnées.
En tout cas,
qu'elles répondent de leurs actes.
Qu'elles répondent de leurs actes.
Devant la justice.
C'est ce qui vous apaisera un peu.
Tout à fait. Qu'elles reconnaissent déjà leur tort. Pour nous, ça sera déjà un gros pas en avant. C'est pas parce qu'on a des diplômes ou qu'on est bien placé qu'on peut échapper à la justice, non.
3 mois après le drame, Samira et Michael ont déposé plainte contre l'État et contre la ville de Nice pour mise en danger de la vie d'autrui. Une étape sans doute nécessaire dans leur reconstruction. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.